Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien. Voilà notre troisième enseignement sur le credo. Nous avons laissé, si l'on peut dire, le Seigneur au ciel ce matin, et voilà qu'il devient homme par la Vierge Marie. Pourquoi, avons-nous dit, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il s'est fait homme, mais il demeure Dieu, puisque nous avons vu que dans le Christ, il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine. On nous dit dans le grand credo de Nicée-Constantinople qu'il a été crucifié pour nous, donc par amour pour nous. Il est mort sur le bois de la croix. On nous dit sous Ponce Pilate, ça c'est pour dater, parce que l'événement de la mort du Seigneur Jésus appartient à l'histoire, aux alentours de l'an 33, voilà que le Christ est mort sur le bois de la croix. Il souffrit sa passion. La passion, nous avons déjà fait le chemin de croix. La passion, c'est tout ce moment à partir du Jeudi Saint où le Christ est arrêté après son agonie au jardin de Gethsémani. Eh bien, l'arrestation, la flagellation, le couronnement d'épines, les insultes, les crachats, le portement de croix. Tout cela, c'est la passion du Seigneur. Il est crucifié et voilà qu'il va mourir sur le bois de la croix. C'est ce que l'on nous dit. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Nous connaissons l'épisode où la Vierge Marie accueille dans ses bras le corps inanimé de son fils qui descend de la croix. Et on va le déposer dans un tombeau tout neuf où personne n'avait encore été déposé. Et voilà que la pierre est roulée. Et au soir du Vendredi Saint, puis le samedi, jusqu'au matin de Pâques, le troisième jour, voilà qu'il ressuscite d'entre les morts. Cette résurrection, on en parle ainsi dans le credo de Nicée, il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Parce que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, à plusieurs reprises, trois jours, c'est un événement important. Lorsque le Seigneur Jésus veut parler de la résurrection aux apôtres, il va dire « Vous n'aurez pas d'autre signe que Jonas ». Eh bien, Jonas, Dieu lui demande d'aller convertir la ville de Ninive, une ville qui est tellement grande qu'il faut déjà trois jours pour la traverser. Et Jonas se dit « Moi, je ne suis vraiment pas fait pour répondre à cette volonté de Dieu ». Il ne répond pas comme Saint Michel Garicoïde, ici à Bétharam, « Me voici pour faire ta volonté ». Jonas, il dit « Moi, aller convertir Ninive tout seul, je ne suis vraiment pas l'homme de la situation, c'est beaucoup trop grand comme projet pour moi. » Au lieu d'aller en Ninive qui est par là, il part dans la direction opposée, il prend le premier bateau qu'il trouve, et voilà que les marins dans le bateau affrontent une tempête dont ils n'ont jamais vu une telle fureur sur la mer. De telle sorte que les marins se disent « Il y en a un parmi nous qui a fait quelque chose contre Dieu ». Parce que ce n'est pas possible que la mer soit aussi déchaînée. Et au fond du bateau, la petite voix de Jonas se lève en disant « Je crois que c'est moi ». À la une, à la deux, à la trois, on jette Jonas à la mer. Et voilà qu'il va, c'est un peu l'histoire de Pinocchio, il va être avalé dans le ventre d'un monstre marin, on pourrait dire nous d'une baleine, et il va y passer trois jours dans lesquels il se remet en question, dans lequel il comprend qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, et au bout de trois jours, quand il sort du ventre de la baleine, voilà qu'il va dans la ville de Ninive et que dès le premier jour, la ville est convertie. Il y a plusieurs leçons. D'abord, on y voit l'image de la résurrection, parce que chacun, nous sommes comme engloutis, avalés par ce monstre qu'on peut appeler la mort. La mort nous retient captifs. Et voilà qu'en étant sortis à la suite de Jonas, nous pouvons aussi ressusciter. Quand Jésus dit « Vous n'aurez pas d'autre signe que Jonas », c'est bien en raison de ces trois jours qui sont libérateurs. Le voilà prisonnier parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, nous sommes chacun prisonniers, puisqu'à la suite d'Adam, nous sommes aussi emprisonnés contre la volonté de Dieu. Maintenant que nous faisons la volonté de Dieu, à la suite du Christ, nous pouvons sortir de ce ventre de la baleine et ressusciter. Donc déjà, il y a ce premier signe, mais il y a une autre histoire très importante. On voit que les apôtres, dès que Jésus passe et les appelle, suivent aussitôt le Seigneur Jésus. Matthieu quitte sa table de collecteur d'impôts, Pierre et André, comme Jacques et Jean, quittent leur filet, se mettent à la suite du Christ. Et nous, on pourrait se dire, eh bien dis donc, on n'est pas sûr qu'on ferait aussi vite la volonté de Dieu. Vous avez vu dans la vie de Saint Michel Garicoit, Dieu l'appelle, il répond « Me voici » à la suite de Samuel dans l'Ancien Testament, par le Seigneur, ton serviteur écoute. Eh bien, Jonas a désobéi et Dieu s'est servi de la désobéissance de Jonas pour convertir les marins. Parce qu'une fois qu'ils ont jeté Jonas à l'eau, qu'ils ont vu la mer apaisée, ils se sont mis eux-mêmes à croire dans le Dieu de Jonas. Donc vous voyez, même nos erreurs, même notre mauvaise volonté, Dieu va s'en servir pour en tirer du bien. Et ça, c'est aussi une très belle leçon spirituelle. Quand Jésus nous dit « Je ne vous donnerai que le signe de Jonas », vous voyez que ce signe de Jonas, il est très riche. Même pour ceux qui n'ont pas fait immédiatement la volonté de Dieu, Dieu va se servir de leur désobéissance pour en tirer un bien plus grand. Alors, on nous dit donc « Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures ». Les Écritures disaient bien qu'il fallait 3 jours pour que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. « Il monta au ciel », c'est la fête que nous allons célébrer jeudi prochain. C'est ce jour-là qu'est mort Saint Michel Garicoit. Quelle est donc cette fête? Montée au ciel, l'ascension. Dans le mot ascension, on retrouve pour nous l'ascenseur, si vous voulez. Alors pour nous, l'ascenseur, ça monte et ça descend. Mais l'ascension, quand on monte une montagne, on appelle ça une ascension, il s'agit de monter. Ce qui veut dire que le Christ, on nous dit dans le credo, il est descendu du ciel pour nous les hommes et pour notre salut. Par la Vierge Marie, il s'est fait homme. Et ensuite, il est mort. Et voyez, il n'est pas seulement resté sur la terre, il a été enseveli. Donc il a été mis en terre. Et il ressuscite le troisième jour. Et voilà que 40 jours après sa résurrection, voilà que le Seigneur monte à la droite de Dieu le Père. Il monta au ciel, il est assis au présent. Ça veut dire qu'il y est toujours, dans cette éternité divine. Il est assis à la droite du Père. Mais on nous dit, attention, il ne va pas rester en haut du ciel. À un moment donné, il va devoir redescendre. Pourquoi faire? Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est la seule chose que les chrétiens attendent de nouveau, ce qu'on appelle le retour du Christ au dernier jour. Et les apôtres, quand ils entendaient Jésus parler de cette réalité, du jugement dernier, ils lui demandent « Et quand c'est? Qu'on soit prêt. » Et Jésus donne 2 enseignements. Le premier de dire « Nul d'entre nous ne connaît ni le jour ni l'heure. » En tous les cas, chacun, nous devons être prêts. C'est pourquoi Jésus dit « Vous devez veiller et prier. » Il donne une parabole. Il nous dit « Si on savait l'heure où on allait être cambriolé, qu'est-ce qu'on fait ? » Et on attend avec la carabine contre la porte, par exemple, si on sait que le voleur il va passer par là. Si on savait quand c'est que vient le voleur, il n'y aurait pas de cambriolage. Mais comme on ne sait pas, on doit toujours être prêt. C'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. La deuxième chose, quand les apôtres posent la question à Jésus, quand est-ce que cela va se passer? Jésus dit, cela appartient au Père de prendre la décision. Je pense que puisque ce que connaît le Père, Jésus le sait aussi, il n'a pas voulu répondre à la question pour que justement nous soyons chacun en état de veille. Parce que d'abord, on ne sait pas quand est-ce que l'on va mourir, donc on doit toujours être prêt. D'où l'importance de se confesser régulièrement, d'être en état de grâce, de prier, on ne sait pas. Et puis, ça pourrait être maintenant que le Christ revienne. Et Jésus pose une question terrible au sujet de son retour, qui pourrait peut-être presque expliquer l'apostasie ou le fait qu'il y ait si peu de chrétiens aujourd'hui, du moins dans notre France. Le Fils de l'homme, quand il reviendra, nous dit Jésus, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et s'il se pose la question, ce n'est pas qu'une question rhétorique, mais c'est peut-être parce qu'il voit que beaucoup n'auront plus la foi, peut-être. En tout cas, il nous faut prier, nous qui avons la foi, eh bien, pour qu'elle puisse à nouveau se transmettre et transparaître. Donc, il reviendra, mais on précise, dans la gloire. Pourquoi ? Parce que la première fois qu'il est venu, quand il s'est fait homme, ce n'était pas glorieux comme venu. Il est né dans la pauvreté de la crèche de Bethléem. Et si les bergers et les rois mages l'ont connu et reconnu, beaucoup ne savent pas qu'il vient de la part de Dieu le Père. En revanche, quand il reviendra, c'est dans la gloire. Tous reconnaîtront et sauront dans leur conscience qu'il est Dieu. Là, ça ne sera plus le moment de l'anonymat de Dieu, mais là, il viendra dans toute sa gloire. On peut imaginer le cortège d'anges, les trompettes de Jéricho qui vont sonner, dont nous parle le livre de l'Apocalypse, tous ces anges qui vont descendre, alors des anges avec plusieurs têtes, avec des couronnes, avec des diadèmes. On nous parle de la cité sainte, de la Jérusalem céleste, en nous disant toutes les pierres précieuses qui l'entourent, pour nous montrer que c'est vraiment la gloire de Dieu qui va descendre. Donc, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants, parce qu'au moment où il reviendra, il y aura des gens qui seront parmi les vivants sur la terre, mais il reviendra également pour juger tous les morts. Et son règne n'aura pas de fin. C'est déjà ce que l'ange Gabriel annonce à Marie en lui disant « c'est le fils de David ». On lui donnera le trône de David, mais son règne à lui n'aura pas de fin. Et que demandons-nous dans la prière du Notre Père qui nous a enseigné ? Que son règne vienne. Pourquoi son règne ne peut pas s'arrêter ? Parce qu'il est Dieu, et que parce qu'il est Dieu, il est éternel. Il règne et il régnera sur chacun d'entre nous. Donc voyez-vous, on nous dit qu'il ressuscite le troisième jour, qu'il monte au ciel, c'est l'ascension, et qu'il va devoir revenir. Cependant, dans le credo des apôtres, on a précisé quelque chose, on nous dit « il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli ». Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'il a été enseveli, juste au moment où il va ressusciter d'entre les morts ? Il est descendu aux enfers. Alors, les enfers au pluriel, ce n'est pas l'enfer au singulier. Jusque-là, vous suivez. Les enfers au pluriel, c'est ce lieu dans lequel étaient, excusez la trivialité des termes, étaient stockés, si l'on peut dire, tout ce qui était mort avant que le Christ ne meure sur le bois de la croix. Pourquoi ? Parce que quand Adam et Ève, en raison de leur désobéissance, sont chassés du paradis, on a placé un ange auprès de la porte du paradis, et les portes du paradis sont définitivement fermées. Et ce n'est que lorsque l'ange Gabriel vient auprès de Marie et que le Christ sera élevé par la Sainte Vierge pour le bois de la croix, lorsqu'il va mourir sur le bois de la croix, Jésus il peut aller chercher tous ceux avant lui qui sont morts pour les faire ressusciter à sa suite. D'accord ? Donc, quand on dit « il est descendu aux enfers », n'imaginez pas un Jésus en armure de ressuscité qui va combattre le démon, parce que ce combat, il appartient à la fin des temps. Pour l'heure, il y a encore le démon ici-bas sur la terre, que Jésus appelle le prince de ce monde. Pourquoi est-ce que Jésus et Dieu laissent le démon ici-bas sur la terre ? Un peu comme l'histoire de Jonas. Parce qu'en laissant ainsi le démon, non seulement il peut vérifier la qualité de notre foi, mais il sait également que chacun nous sommes armés pour mener le bon combat si nous restons profondément unis à Dieu. Et il sait, comme Jonas qui a désobéi, que de cette désobéissance, il va en faire sortir un bien beaucoup plus grand. Donc voyez-vous, il y a ce combat descendu aux enfers et voilà qu'il va ressusciter d'entre les morts. Ensuite, nous passons dans notre commentaire du credo à la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit. Et donc là, l'élément le plus important est de se dire « je crois en l'Esprit Saint », on nous dit qui est Seigneur et qui donne la vie. Alors le fait de dire que l'Esprit Saint est Seigneur, c'est bien de dire que l'Esprit Saint, il est Dieu comme l'est Dieu le Père et comme l'est Dieu le Fils. On a bien vu ce matin la définition de la Sainte Trinité. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle ? Oui ? Alors, trois, ça, c'est quand même pas une définition, c'est un chiffre. Un seul Dieu en trois personnes. Nous croyons en un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on a dit, ils se partagent la même nature. Comment on la qualifie, cette nature ? divine. Et nous, quelle est la nature que nous partageons ici ?
Humaine.
La nature humaine. Et je vous rappelle, dans le Christ, on trouve les deux natures. Et la nature humaine, il est vraiment homme. Et la nature divine, il est vraiment Dieu. Donc, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une égalité. Dieu le Père n'est pas plus Dieu que Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas plus Dieu que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas plus Dieu que le Fils ou le Père. D'accord ? Il y a une égalité. Ils sont Dieu, les trois également. Lequel est éternel ? Les trois. Lequel est créateur ? On l'a vu ce matin. Les trois. Le Père pense à la création, le Fils, il l'a dit, il le fait, et l'Esprit Saint, il constate que tout ce qu'a, entre ce qu'a pensé le Père et ce qu'a fait le Fils, tout cela est très bon. C'est la grande action de grâce. Donc, dans la Trinité, il y a une égalité. Et c'est ce que le credo de Nicée nous dit. Je crois en l'Esprit Saint. Quelle est sa mission ? Il est Seigneur, il donne la vie. Vous voyez, nous avons une vie qui nous anime, c'est l'Esprit Saint. Et on nous dit, il procède du Père et du Fils. Qu'est-ce qu'on nous a dit ce matin ? Quel était le mot extrêmement précis dont on nous a parlé pour nous parler du Fils qui vient du Père ? On a eu un mot ce matin dans le credo extrêmement précis, et vous avez le texte sous les yeux, alors vous allez vite le retrouver. On nous a dit, il y a Dieu le Père et le Fils. Comment on a dit, puisqu'on a dit que ce n'était pas une créature et qu'on ne peut pas dire qu'il est né parce que c'est trop corporel ?
Engendré.
Engendré. On a dit, il y a le Père, il engendre le Fils. Et maintenant, on ne nous dit pas qu'il a engendré l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'Esprit Saint ? Que l'Esprit Saint, il procède et du Père et du Fils. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans la Trinité et Dieu est ordonné. Parce que rien que la création, les lois de la nature qu'il nous a données sont parfaitement régulières et ordonnées. On ne comprendrait pas pourquoi il y aurait un ordre dans la création si en Dieu il y a le désordre. Je vais vous donner un autre exemple. Si on rentre dans votre chambre et qu'on voit que c'est le grand bazar, on sera très étonné si vous savez écrire des choses où il y a véritablement un ordre. Parce que généralement, la personne qui est ordonnée à l'extérieur, elle est également extrêmement ordonnée, elle a les idées claires, comme on dit. Et souvent, ceux chez qui c'est le grand bazar, c'est aussi le grand bazar quand ils écrivent. Donc en Dieu, puisqu'il y a un ordre manifesté dans la création, il est logique qu'on retrouve un ordre en lui-même. Dieu le Père est premier, Dieu le Fils est second, puisqu'il est engendré du Père, et l'Esprit Saint, on nous dit, il procède, donc il fait sans cesse l'aller-retour. Alors pour donner l'exemple qui est celui des Pères de l'Église, on nous dit, Dieu le Père, c'est comme une source infinie d'eau. Une source qui ne cesse donc pas de couler. Et si la source, elle veut se donner, il faut donc qu'elle ait quelqu'un qui soit capable de recevoir tout ce qu'elle veut donner. Jusque-là, vous comprenez. Admettons que notre source d'eau, ce soit 6 litres d'eau, ben, il me faut un récipient d'au moins combien ?
6.
Eh bien, au moins 6 litres, parce que si j'ai un récipient de 5 litres d'eau, je ne peux pas entièrement me donner. Dieu le Père veut se donner. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, l'amour, on a parlé des tourterelles, ou des hirondelles, l'amour, eh bien, il est dans la nature de l'amour de se donner. Et du coup, Dieu le Père, qui est amour, il veut se donner par amour au Fils. C'est pour ça qu'il engendre le Fils. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut au moins quelqu'un aussi infini que le Père pour recevoir tout ce que le Père veut lui donner. Donc il y a un échange. Le Père veut tout donner au Fils et le Fils, il reçoit tout. Mais le Fils, il ne veut pas le garder. Parce qu'il aime son Père et qu'il est dans la nature de l'amour de se donner, il veut tout rendre à Dieu le Père. Et Jésus ne cesse de nous rappeler ça dans les évangiles que nous entendons aujourd'hui. Le Père et moi, nous sommes un, je suis parfaitement obéissant à mon Père, je suis venu pour faire la volonté, les paroles que je vous ai dites, c'est le Père qui me les a dites. Bon. Et donc du coup, on voit qu'il y a un échange. Donc Dieu le Père, il se donne par amour à Dieu le Fils, et Dieu le Fils, il rend tout ce qu'il a reçu à Dieu le Père. Eh bien, cet échange de l'amour, vous voyez qu'il y a un échange. Le Père se donne au Fils, le Fils se donne au Père. Eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il ne fait que procéder du Père et du Fils. Le Père se donne au Fils, le Fils se rend au Père. Cet échange de l'amour, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on imagine Dieu, on se dit, oh ben Dieu doit être tout seul, il doit bien s'ennuyer. Mais il y a la Trinité des personnes. Il y a cet amour de communion qui fait que le Père, il aime tellement le Fils qu'il donne tout au Fils, sauf son être de Père. Sinon, ça ne marche plus, c'est une confusion. Et le Fils, il donne tout au Père, sauf son être fils. Ah oui, parce que sinon, c'est la confusion. Et l'Esprit Saint, comme on l'a vu dans la création, il se réjouit de cet échange de l'amour. On l'a vu ce matin dans la création, je le redis, Dieu le Père a l'idée de créer le monde, le Fils, il est le Verbe de Dieu, on a vu, c'était donc l'action, il crée selon ce que le Père a prévu, et celui qui se rend compte que, oh, le Père avait une idée, c'est le Fils qui reçoit l'idée, oh, ben le Fils, il a parfaitement réalisé l'image, c'est l'Esprit Saint dont on nous dit dans la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. Ça va un peu pour ça? Donc on nous dit que cet Esprit Saint, il est Seigneur, donc ça veut dire qu'il est Dieu comme le Père et le Fils. Il donne la vie. Alors il donne la vie, toute la vie que nous avons dans la création, la vie végétale, la vie animale, la vie humaine, la vie angélique, tout ça, voyez-vous, l'Esprit Saint y participe. Mais nous avons également pour nous la vie surnaturelle, cette vie que nous recevons dans la grâce, ça passe également par le Saint-Esprit. On nous dit, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration. Vous savez que je vous corrige, même les catéchistes parfois, quand on dit « Oh, j'adore telle ou telle chose », que nous dit Moïse, « Tu n'adoreras que Dieu seul ». Et là, on nous dit, avec le Père et le Fils, le Saint-Esprit, il reçoit même adoration. Ça veut dire, il y a une égalité. Je ne dois pas aimer plus l'un que l'autre. Il y a une égalité dans l'amour chez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il reçoit même adoration et même gloire. L'Esprit Saint, ce n'est pas un qui serait un peu moins Dieu que les autres. Il est pleinement Dieu. Et on nous dit, comment a parlé l'Esprit Saint? Alors Jésus, on comprend comment il a parlé. Il est le Verbe de Dieu. Il a parlé lui-même. Il est venu enseigner les apôtres. Il est venu enseigner les disciples. Et par les évangiles, nous en connaissons les paroles prononcées par Jésus, du moins un certain nombre. Mais l'Esprit Saint, comment il a parlé? On nous dit, il a parlé par les prophètes. Et oui, parce que les prophètes, ils parlaient de la part de Dieu. Quand Isaïe, il nous dit, « Moi, je vois l'agneau muet que l'on conduit à l'abattoir. » Qui c'est cet agneau? C'est celui que Jean-Baptiste dira, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Quand il nous dit, « Je vois l'agneau muet », il ne dit pas un mot, « Conduit à l'abattoir. » Qu'est-ce que c'est l'abattoir? C'est l'image de la croix. Voyez-vous, il parle déjà par l'Esprit Saint, il lui est déjà donné de voir un événement futur. Quand le prophète Isaïe nous dit, « Je vois la Vierge deviendra mère. » Ça, c'est pas logique. Soit elle est vierge, donc du coup, elle ne connaît pas d'homme, elle n'a pas fait d'enfant. Mais on ne peut pas être vierge et être mère en même temps. Et pourtant, c'est ce que dit Isaïe. La Vierge enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il parle déjà par les il parle par l'Esprit Saint qui lui donne de voir et d'anticiper. C'est pourquoi on nous disait dans le credo, le Christ est ressuscité, mais tout ça c'est conforme aux Écritures. Et souvent dans l'Évangile, on entend Jésus qui cite les Écritures, ou les évangélistes qui nous disent, tout ça, ça s'est passé pour telle parole ou telle autre de l'Écriture qui avait été annoncée à l'avance. Donc l'Esprit Saint, il a parlé par les prophètes. Et enfin, nous terminons le commentaire du credo. Alors on croit en Dieu le Père, on croit en Dieu le Fils, on croit en Dieu le Saint-Esprit. L'Église, elle n'appartient pas à la Sainte Trinité, sinon ça ne serait plus un trio, ça serait un quatuor s'ils étaient quatre. L'Église, ce n'est pas une personne divine, mais l'Église, elle est tellement unie à Dieu le Fils que dans les Saintes Écritures, on dit Dieu le Fils est l'époux, et vous savez que Jésus, souvent, il prend l'exemple d'un mariage. Hein, les 10 jeunes filles, les 5 jeunes filles prévoyantes et les 5 jeunes filles sottes. Ou encore, il nous dit, quand le roi a décidé de marier son fils, il invite tout le monde à la noce et lui dit, moi je peux pas, je suis occupé, j'ai les champs, moi je dois aller dans mon magasin, moi j'ai tellement d'autres choses à faire. Et puis il va sur les routes et il prend les premiers boiteux, les premiers malades qu'il voit pour les inviter. Donc vous voyez, il prend souvent l'exemple du mariage. Pourquoi? Parce que Jésus est l'époux, et qui est donc l'épouse? Et c'est l'Église. Et qui c'est l'Église? Et c'est nous qui sommes l'Église. Alors nous, nous sommes l'Église ici-bas sur la terre. Saint Michel Gricoy, Sainte Bernadette et tant d'autres, c'est l'Église des gens du ciel, dans la gloire de Dieu. Et nous, nous sommes l'Église ici-bas sur la terre, qui cheminons, qui peinons, et qui devons, comme celle du ciel, arriver et parvenir en paradis. Donc, il y a l'Époux, le Christ, et il y a l'Épouse. Où est-ce que l'Époux a manifesté son amour? Sur le bois de la croix. C'est la raison pour laquelle saint Augustin, il appelle le moment où le Christ meurt sur le bois de la croix, les noces de la rédemption, pour nous dire, c'est là où il y a un vrai mariage, où l'époux a les bras grands levés pour accueillir son épouse que nous sommes. Et Jésus le dit d'ailleurs. Quand il dit « j'ai soif », c'est pas qu'il a envie de boire un coup. c'est surtout qu'il a soif d'amour pour chacun d'entre nous. Il a soif d'amour pour son épouse, qui est l'Église. Quand il nous dit « Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes », c'est bien pour nous dire « Je veux attirer tous les hommes ». Pourquoi ? Parce que, comme il le dira par Hélomonial en apparaissant à Sainte Marguerite Marie en 1689, il dira « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Dieu nous aime tellement qu'il est venu sur le bois de la croix pour s'unir à notre humanité. Donc quand on dit qu'on croit en l'Église, on croit que tous nous serons rassemblés dans cette famille au ciel, en paradis. C'est ça l'Église. L'Église, vous êtes devenu chacun membre de l'Église en devenant enfant de Dieu au jour de votre baptême. L'Église, ce n'est pas que les prêtres, c'est l'ensemble des baptisés. Et c'est même l'ensemble des hommes, parce que, comme nous dit Jésus, tous sont appelés à devenir baptisés, et pourtant il y a peu d'élus. Donc, on nous dit « je crois en l'Église qui est une ». Il y a une unité de l'Église. Et cette unité, elle ne vient pas des hommes, qui sont souvent très divisés. L'unité de l'Église, elle vient du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le temps. Donc, je crois en l'Église qui est une. Elle est sainte, l'Église. Mais sa sainteté ne vient pas des hommes. Des prêtres, des fidèles qui se confessent tous. La sainteté, elle vient de Dieu qui, lui, est le seul saint. Elle est catholique. Qu'est-ce que ça veut dire catholique ? En grec, ça veut dire qu'elle est universelle. Puisqu'il n'y a qu'une seule Église, c'est l'Église qui est à la dimension de l'univers. Pas simplement de la terre, à la dimension de l'univers. Elle est apostolique, ça veut dire qu'elle repose sur les apôtres. Les 12 apôtres, c'est-à-dire Pierre et les autres 11, on enlève Judas, on rajoute Matthias, d'accord ? Les 12 apôtres, puis après il y aura Paul, et puis les successeurs des apôtres que sont aujourd'hui les évêques. Ma foi repose sur les apôtres. Et enfin, on nous dit, attention, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Ça, c'est le sacrement du baptême que j'ai reçu. Au moment de mon baptême, alors j'étais un tout petit enfant, j'ai été pardonné de tous mes péchés. Et c'est la raison pour laquelle les premiers chrétiens dans l'Église, on ne baptisait pas les petits bébés. On attendait quasiment que la personne soit sur son lit de mort pour lui donner le sacrement du baptême. Pourquoi ? Et parce qu'on ne savait pas sinon comment concrètement pouvions-nous opérer le pardon des péchés. Alors on attend jusqu'au dernier moment, puis après c'est très risqué. Parce que la personne peut mourir dans un accident, elle n'est pas baptisée, on se dit est-ce qu'elle va être sauvée ? Ça c'est une grande question. On a des paroles de Jésus qui sont très claires là-dessus. Hein. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé. C'est une parole très rude. Et d'autres où on nous dira dans la tradition de l'Église, attention, Dieu n'est pas enchaîné au sacrement. Par un moyen qui lui appartient à lui seul, et seulement à lui, il jugera, il verra. Mais en tous les cas, il nous faut être baptisés pour être sauvés. En tout cas, c'est ce qu'il nous demande ici-bas sur la terre. C'est ce à quoi nous devons œuvrer auprès des gens qui nous entourent. Donc, on nous dit « Je crois à un seul baptême pour le pardon des péchés ». Ensuite, il y a eu le sacrement de confession, parce que Jésus, il envoie souvent les apôtres pardonner les péchés en son nom. Pas les disciples, les apôtres, ceux qui, au soir du Jeudi Saint, deviennent véritablement apôtres-évêques, si l'on peut dire. Donc du coup, pour nous qui avons reçu le baptême bébé, comment devons-nous faire ? Eh bien, ensuite, on doit recevoir le sacrement de la confession, régulièrement pour pardonner les péchés, sachant, comme il le dit à Pierre, tout ce qui sera pardonné ici-bas sur la terre sera pardonné au ciel, mais tout ce qui ne sera pas pardonné sur la terre ne sera pas pardonné au ciel. Ça, le Seigneur est d'une très grande clarté. Quand il donne les pouvoirs à Pierre, en lui donnant les clés du royaume des cieux, il lui dit, voilà, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié au ciel. C'est ça le pouvoir, les clés. C'est pas simplement Saint-Pierre qui ouvre la porte du paradis. Pour ouvrir la porte du paradis, il a le pouvoir, l'Église a le pouvoir de pardonner les péchés. Lorsque je suis devenu prêtre, l'évêque m'a dit, après mon ordination, « Monsieur l'abbé, je vous donne le pouvoir de confesser les péchés. » Et du coup, je peux vous confesser. Et ce n'est pas moi qui pardonne les péchés. C'est le Seigneur qui pardonne les péchés à travers les prêtres qu'il a voulu. Donc, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que ma brave grand-mère que j'ai enterrée, que j'aime tant, c'est seulement son corps que j'ai enterré dans la terre. Son âme, elle est où ? Elle est parue face à Dieu. Dieu lui a fait ce qu'on appelle son jugement particulier et elle attend, elle aussi, le jugement dernier. Et alors, il y aura ce qu'on appelle la résurrection de la chair. Dieu redonnera à mon âme mon propre corps. Pourquoi ? Parce que je suis mon corps ici-bas sur la terre. Même nos jumelles qui se ressemblent, elles ne peuvent pas échanger leur corps. Alors d'accord, une peut mettre la frange et l'enlever, et un peu essayer de... Bon, passons. Mais on est notre propre corps. Le matin, en vous levant, vous ne vous êtes pas trompé, vous n'avez pas pris la tête de votre père, les pieds de votre mère et les jambes de votre sœur. Vous êtes votre propre corps. Dieu nous a donné ce corps. On doit donc en prendre soin, mais on le retrouvera également en paradis. Et ça, nous le voyons parce que quand le Christ est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Alors, il y a une ambiguïté. Parce qu'il apparaît avec son corps, mais c'est un corps qu'on appelle glorieux. Souvenez-vous, les apôtres sont enfermés au Cénacle. Toutes portes closes, parce qu'ils ont peur des Juifs. Ils ont peur d'être crucifiés à la suite du Seigneur Jésus. Toutes portes et volets clos. Et voilà que le Seigneur passe à travers les murs. C'est son corps, mais un corps glorieux, qui n'est plus lié de la même façon à la matière. Nous, on peut essayer de passer à travers les murs. Je vous le dis, ça risque de faire mal, et si vous persévérez, vous aurez de belles bosses. Mais le Seigneur ressuscité a son corps glorieux, il passe à travers les murs. Il n'est pas obligé de manger. Pour leur montrer qu'il est quand même bien vivant, ressuscité, il va manger avec eux. Mais il a une autre propriété. Et cette ambiguïté, on la voit parce que les apôtres le reconnaissent. Oh, c'est le Seigneur. Saint Jean se jette à l'eau et Pierre avec lui. Parce qu'ils le reconnaissent. Et en même temps, on n'ose pas lui demander si c'est bien lui. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent. Donc n'imaginez pas que l'on aura notre corps là. Admettons que la personne est handicapée. N'imaginons pas qu'elle sera à nouveau handicapée au ciel. Il y a aussi une perfection dans ce corps glorieux. Je vous le disais ce matin pour saint Thomas d'Aquin, l'âge de la résurrection que nous aurions au ciel, c'est grosso modo 33 ans. C'est l'âge du Christ, puis 33 dans la symbolique des chiffres occidentales, c'est vraiment la perfection. Donc voyez, on ne va pas ni ressusciter bébé, ni ressusciter vieillard. Si vous mourrez à 90 ans, vous n'allez pas vous retrouver des rhumatismes au ciel en paradis. Il y a un âge moyen. Ça sera notre corps glorieux. Alors on aurait plein de questions là-dessus, mais ça je crois qu'on le découvrira quand on sera au ciel. Donc en tous les cas, on nous dit bien, j'attends la résurrection des morts, dans le credo de Nicée, ce qu'on appelle dans le credo des apôtres, la résurrection de la chair. Je retrouverai mon propre corps, et ainsi je pourrai me reconnaître, pour ceux qui nous seront vus ici-bas sur la terre. Et enfin, on nous dit dans le credo de Nicée, j'attends également la vie du monde à venir. Et le credo des apôtres nous dit, la vie éternelle. J'attends quoi ? Eh bien, que cette vie ici-bas sur la terre, faite d'épreuves, de deuil, de larmes, qu'on appelle dans le Salve Regina cette vallée de larmes ici-bas, fasse place à la Jérusalem céleste, comme nous dit saint Jean, où il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, mais il n'y aura que la joie et la paix en étant en Dieu. Donc voyez que ce credo de Nicée-Constantinople ou le credo des apôtres nous disent les éléments principaux de notre foi. Pourtant, il ne nous dit pas tout. Tout n'est pas contenu dans ces credos. Par exemple, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII, n'a pas été rajouté. De même, le dogme concernant la conception immaculée de la Vierge Marie, proclamé le 8 décembre 1854, n'a pas été rajouté. Ça ne nous dit pas tout. On ne nous parle pas des anges, par exemple. Il y a plein de choses dont on ne nous parle pas. L'éternité de l'âme, qui est un dogme chez le chrétien, on ne nous en parle pas non plus. Mais là, on nous dit les éléments principaux. Et ils se disent en deux mots dont nous avons bien étudié les mystères, l'incarnation, le fait que le Fils de Dieu devienne homme tout en restant Dieu, avec ses deux natures, vrai homme et vrai Dieu, et la Trinité, je crois en un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, ces deux mystères principaux de la foi sont ceux que nous devons avoir clairement en tête. Pourquoi ? Notamment parce que nous devons être à la suite des apôtres missionnaires, et que pour les musulmans, il n'y a forcément qu'un seul Dieu. En cela, nous pouvons être d'accord avec eux. Mais pour nous, l'unité de Dieu se dit dans la trinité des personnes. Dieu n'est pas seul, solitaire, parce que voyez-vous, être ainsi seul et solitaire, ça peut être, et c'est même la plupart du temps, une imperfection. Or, Dieu est parfait. Si Dieu était complètement tout seul et qu'il se glorifiait lui-même tout seul dans son coin, ça, c'est pas une perfection. En revanche, qu'il n'y ait qu'un seul Dieu qui se perfectionne dans la communion qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais là on comprend qu'il y a du mouvement, là on comprend qu'il peut y avoir de l'amour, parce que s'aimer que soi-même, ben ça c'est pas une perfection pour nous. Mais s'aimer dans la trinité des personnes, pas simplement deux, parce que ça pourrait être la fusion, mais déjà trois, ça veut dire qu'il y a déjà une communion possible. Donc ça, c'est déjà très important, voyez-vous, d'avoir aussi ces idées claires. À une époque où la France commence à être peuplée de plus en plus de musulmans, il nous faudra porter également le témoignage éclatant, comme un grand nombre de docteurs et de saints de l'Église l'ont fait, cette trinité des personnes en Dieu. Et également les deux natures, parce que les témoins de Jéhovah ou également les musulmans diront « Jésus, à la limite, c'est un prophète ». Mais nous, Jésus, ce n'est pas un prophète, comme le sera Moïse, ou comme pourrait l'être Isaïe, Ézéchiel, ou je ne sais qui encore. Jésus n'est pas un prophète. Ce n'est pas simplement le Messie envoyé de Dieu, il est Dieu lui-même. Les témoins de Jéhovah nous disent « Mais non, Jésus, il n'est pas vraiment mort sur le bois de la croix. » Donc du coup, il n'a pas besoin de ressusciter, puisqu'il n'est pas vraiment mort. Mais non, nous, attention, il est vraiment mort sur le bois de la croix. En tant qu'homme, Jésus est vraiment mort sur le bois de la croix. En tant que Dieu, il peut ressusciter d'entre les morts. D'accord ? Et donc, on n'est pas du tout d'accord avec les musulmans quand les musulmans nous disent « Oui, oui, il y a Jésus, il y a Marie. » Alors nous, on se dit « Oh, ben, si il y a Jésus et Marie, on croit dans le même Dieu. » Mais attention, pour eux, Jésus n'est qu'un prophète parmi tant d'autres. Nous, il est véritablement Dieu. Et il n'y a pas d'autre prophète. Et nous n'avons pas à attendre un pseudo-Mahomet pour venir nous dire « Maintenant, je vais vous dire l'accomplissement de la révélation. » Non, parce que nous savons que tout a été donné aux apôtres et à nous qui sommes membres de l'Église, donc vous aurez compris que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Donc nous n'avons qu'une chose à attendre ici-bas sur la terre, c'est la vie du monde à venir, pour nous-mêmes, pour nos défunts, et pour tous ceux que nous côtoyons au quotidien. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir les défunts avec nous ? Ben parce que voyez-vous, il manquerait quelque chose à mon bonheur, et comme Dieu me promet le bonheur éternel, admettons nos jumelles. Admettons que Laetitia, je ne sais plus laquelle est, si c'est la France ou sans France, peu importe, admettons que Laetitia aille au ciel, et Camille, Dieu lui dit, Eh bien ne serait-ce que l'amour que Laetitia a porté à sa sœur, elle pourrait également aussi l'aider à être en paradis. Pourquoi ? Parce qu'il manquerait quelque chose à Laetitia si sa sœur Camille n'était pas auprès d'elle. C'est vrai également pour nos animaux de compagnie. L'Église ne nous dit pas que tous les animaux qu'on a connus, alors la vache dans le pré, le machin, mais en raison de l'amour que nous avons porté à tel ou tel animal, il manquerait quelque chose à mon bonheur au ciel si je n'avais pas tel animal que j'ai aimé. Voyez, vous comprenez que c'est bien la logique de l'amour qui habite tout cela. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que vous avez des questions. Vous avez tout compris, alors c'est merveilleux. Mais hélas, ce n'est pas une bonne réponse que de dire « j'ai tout compris » parce que tout reste des mystères. Donc il nous est donné de comprendre un certain nombre de choses, mais celui qui croit avoir tout compris, il lui manque l'essentiel, c'est-à-dire que Dieu est bien au-dessus de tout cela. Alors vous n'avez pas tout bien compris, d'accord, mais j'espère un peu quand même. D'accord. Pas de questions ? Alors nous pouvons chanter. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien, notre Père.
Qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.
Nous nous confions à vous, bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Bétharam, pour que nous puissions, comme vous, garder et méditer tous les événements de la vie du Seigneur. Nous vous présentons ces jeunes enfants qui vont préparer leur profession de foi. Aidez-les, soutenez-les dans la foi, l'espérance et la charité, afin qu'ils puissent être ce que le bon Dieu a prévu pour eux, des saints. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Michel Garicoïtz, alors que nous sommes si proches de ce lieu où vous avez rendu votre âme à Dieu en ce jour de l'Ascension 1863, nous vous présentons également ces enfants qui se préparent à professer la foi, vous qui avez été un apôtre infatigable, vous qui avez été un professeur et un maître en théologie, à ancrer dans la foi de ces enfants suffisamment de foi, d'espérance et de charité pour être ce que le bon Dieu veut pour eux, être des saints. Saint Michel Garicoïtz,
priez pour nous.
Saint Michel Garicoïtz,
priez pour nous.
Saint Michel Garicoïtz,
priez pour nous.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
On rend grâce à Dieu.
Ça va.